Bonjour, chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et merci d'avoir syntonisé le 92,7 FM et de prendre part à ce Tour d'horizon. Veuillez noter que le Tour d'horizon vise à donner aux gens de foi et aux citoyens de bonne foi une plateforme pour réfléchir et pour discuter avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, il sera question de la crise dans le milieu de l'éducation. On a vu sur la plateforme du 98,5fm.ca que Québec promet l'embauche de 600 enseignants. Et oui, et en plus des 600 enseignants, on ajoute 200 professionnels qui vont venir en aide aux élèves en difficulté. Ça, c'est intéressant. Alors, les élèves du préscolaire et du premier cycle du primaire, donc on veut dire la première et la deuxième année, vont avoir de l'aide spécialement dans les milieux défavorisés. Et Québec souhaite s'attaquer avec plus de vigueur aux difficultés d'apprentissage en lecture et en écriture. Alors, ça, c'est très bon. Ça, c'est un pas dans la bonne direction. Et ce qu'on apprend aussi sur la plateforme du 98.5fm.ca, devrais-je dire, eh bien, on voit que le gouvernement Couillard veut aussi accélérer l'implantation de classes de maternelle 4 ans dans les quartiers jugés défavorisés. Ça aussi, c'est excellent. Mais on voit qu'il y a une crise. Alors, on a l'impression, quand on lit ça, que, oh, le ministre de l'Éducation prend de bonnes décisions, s'en va dans la bonne direction, mais comment se fait-il que, dans les prochains jours, on va voir des enseignants faire la grève? Alors, est-ce que c'est vraiment dans la bonne direction? On le sait, on l'a appris dans les derniers jours, que le gouvernement Couillard va ajouter 80 millions de dollars au budget de l'éducation, qui oscille autour de 17 milliards de dollars. Alors, j'entendais un expert commenter cette nouvelle-là la semaine dernière et je trouvais ça assez intéressant parce que 80 millions sur 17 milliards, il comparait ça à un salaire de 50 000. Par exemple, vous êtes un travailleur, vous gagnez comme salaire 50 000 dollars par année, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, comme augmentation de salaire ou comme boni? Eh bien, on parle de 235 $ pour l'année. Alors, bon, c'est sûr que ça paye une belle soirée, un vraiment bon souper au restaurant, comme il l'avait dit. Alors, c'est sûr, mais ce n'est pas nécessairement une augmentation significative. Moi, je dis que c'est un pas dans la bonne direction. Il faut aller de l'avant. Notre problème, c'est qu'on a énormément mis, dans les années 60-70, de l'énergie et des ressources dans les structures. C'était nécessaire à cette époque-là parce qu'on avait un système qui n'était pas uniforme. On avait besoin de se donner des outils, des mécanismes pour mettre sur pied un bon système d'éducation. Maintenant, on n'est plus là. Maintenant, avec la technologie, maintenant avec les nouvelles ressources, maintenant avec la recherche, eh bien, il faut voir la gestion de l'éducation d'une autre façon. Donc, si on regarde les revendications des enseignants, on voit que oui, ils reprochent une chose. C'est que le ministère de l'Éducation a établi que dans les classes, il allait avoir une augmentation d'élèves. Donc, qu'est-ce qu'on dit du côté du ministère? On dit, bon, mais c'est prouvé dans la recherche que même si les classes sont un peu plus grandes, ça n'a pas un impact, une incidence sur les résultats scolaires des élèves. Le problème, ce n'est pas juste les élèves. Oui, les élèves ont un rôle à jouer là-dedans parce que c'est eux qu'on est en train de former et c'est notre élève. Mais il y a un problème aussi de gestion, mais il y a un problème également pour les enseignants. Ça demande beaucoup plus de responsabilités, ça génère beaucoup plus de stress. Et moi, écoutez, quand j'ai commencé mes études en éducation, c'était en 1985, ça ne me rajeunit pas, mais savez-vous quoi? On nous avait fait passer un test de français pour évaluer si notre français était suffisamment bon pour être un enseignant. Et s'il n'était pas suffisamment bon, il fallait prendre un cours d'appoint pour améliorer la qualité de notre français, ce qui est excellent. C'était une bonne chose. Maintenant, la question, on avait un choix de questions et la question que moi j'ai choisie, c'était celle, est-ce qu'on doit intégrer les élèves en difficulté dans les classes régulières? Parce que l'argument de l'époque, c'était, ben, il faut justement donner aux élèves en difficulté d'avoir un environnement sain, puis pour pas qu'ils se sentent comme des citoyens de seconde classe ou des élèves de seconde classe. Donc, il faut les intégrer pour qu'ils se sentent, entre guillemets, normaux. Le problème, au fil des ans, ce que ça a causé, c'est que ça a causé de la démotivation. La démotivation chez les élèves qui étaient réguliers ou bons ou excellents, parce qu'eux autres, ils ralentissaient le rythme, ralentissaient justement la dynamique de la classe. Et sur le plan pédagogique, eh bien, ça demandait des tours de passe-passe chez les enseignants. Et à ce moment-là, ça a amené des burn-out. Et comme on a déjà parlé ici sur la plateforme du 92.7, eh bien, ça fait en sorte que les enseignants, après les 5 premières années, vont quitter le métier parce qu'ils se disent « Ben non, ça n'a pas de bon sens. Moi, pour le salaire que je fais, oui, c'est vrai qu'il y a des conditions de travail qui sont intéressantes, il y a des congés, mais pour le travail que je fais puis l'énergie que je fais, ça ne vaut pas la peine. » Alors, il y en a qui se recyclent dans des métiers ou dans des professions connexes. Ou il y en a qui retournent carrément sur le marché du travail. Et donc, ça, c'est un élément important de voir que il y a une question salariale qui est exigée. Et ça, la question salariale, là, je me dis, pourquoi les enseignants se battent pour la question salariale? Pourtant, qu'est-ce qui fait que les enseignants quittent, même si on augmenterait leur salaire? Si les conditions dans la salle de classe ou dans les écoles ne changent pas, ils vont finir par quitter un moment ou de l'autre. C'est pas là qu'il faut miser. En tout cas, si j'étais le ministre de l'Éducation, je ne miserais pas là d'abord. J'investirais l'argent non pas pour augmenter les salaires, mais pour faire en sorte que l'environnement scolaire soit beaucoup plus motivant pour les enseignants et pour qu'ils soient motivés à amener des résultats. Maintenant, moi, j'ai toujours cru, puis je n'ai pas changé d'idée depuis 1985, les élèves en difficulté doivent être regroupés dans des classes qui sont conçues pour eux. Il doit y avoir des enseignants qui sont formés, spécialisés. Vous allez dire, oui, il y a des enseignants qui sont formés, qui sont spécialisés. On appelle ça, justement, on a le choix quand on veut être enseignant, on s'en va soit au régulier ou en adaptation scolaire. Mais ce qui arrive, les classes d'adaptation scolaire, oui, il y en a déjà. Mais encore là, c'est tout un défi. Moi, j'ai fait de la suppléance en adaptation scolaire. Puis je vais vous dire une chose, c'est tout un défi, croyez-moi. Alors, c'est pour ça qu'on s'est dit, on va essayer de les intégrer, donc les diluer, de ne pas toutes les mettre ensemble. Et à ce moment-là, ça devient un très grand défi pour le ministre. Parce que, savez-vous quoi? Ceux qui se lancent dans l'enseignement, là, c'est parce qu'ils ont réalisé quelque chose. Et moi, je vous invite à aller sur une plateforme vraiment intéressante. C'est sur le www.uqat.ca. Et ça s'intitule « L'enseignement est le plus beau métier du monde. Voici pourquoi. » Et donc, si vous voulez le lien, vous pouvez m'écrire sur le blogueur acommercialericlantier.net. Je pourrais vous envoyer le lien, c'est vraiment intéressant. Et c'est vraiment une vocation, l'enseignement. Ceux qui choisissent de devenir enseignants, ils sont guidés pour la plupart ils sont guidés par quelque chose d'intrinsèque, quelque chose qui est à l'intérieur. Et ils sont prêts à se donner parce qu'ils ont une vision et ils se sentent, comment je pourrais vous dire ça, ils sentent qu'ils ont une mission. Et c'est une mission noble. Je le sais, je l'ai exercé, ce métier-là. C'est quelque chose de spécial, être un enseignant. Et voici ce que ça nous dit sur uqat.ca. L'enseignement confère à ceux qui l'exercent une stabilité et un certain équilibre. De toute évidence, le fondement de la société est la transmission. Transmission du savoir, transmission de la culture d'une génération à l'autre. C'est toute une mission, ça, d'être enseignant. Et ce qu'on dit sur ce site-là, c'est qu'être enseignant, c'est un privilège. Ceci d'autant plus que la matière première est l'humain, généralement à l'âge le plus malléable. Et c'est important parce qu'il va dire aussi, bonne ou mauvaise, l'influence d'un enseignant peut s'imprimer pour la vie. Il n'y a rien de pire qu'un enseignant qui est insatisfait, un enseignant qui va justement transmettre sa matière, équiper les jeunes, mais dans un contexte où est-ce qu'il va transmettre aux jeunes son agressivité, sa fatigue, son stress. Qu'est-ce qu'on va dire sur cette plateforme-là? Qu'ils soient ingénieurs, médecins, politiciens, journalistes, techniciens, économistes, etc., ils doivent tous quelque chose à un enseignant. Pourquoi? Parce qu'il éveille notre curiosité, notre soif de découverte, notre capacité de réflexion. Et je l'ai cité sur LinkedIn, dans la plateforme Citation du jour, j'ai cité une phrase qui, moi, m'a émerveillé. Voici voici le contenu de cette phrase. Il est incontestablement l'auteur-compositeur à l'origine de toutes les compétences. Il est l'auteur-compositeur à l'origine de toutes les compétences. Les enseignants, il y a des enseignants qui nous ont marqués. Il y en a qui nous ont marqués positivement, il y en a qui nous ont marqués négativement. Mais quels sont les enseignants qui nous ont le plus marqués? Eh bien, c'est ceux qui aimaient leur métier, qui aimaient nous transmettre leur savoir, qui aimaient vouloir nous amener à devenir compétents, à aimer la matière qu'ils nous communiquaient. C'est simplement une profession au-dessus de la mêlée, investie d'un pouvoir, d'une mission. C'est en même temps former, informer et transformer. C'est important qu'on se penche sur ces questions-là. Parce que, il nous dit une autre chose, il nous est dit sur cette plateforme une autre chose, c'est le moyen par lequel la société renouvelle perpétuellement les conditions de sa propre existence. C'est finalement rendre les hommes plus humains. Et c'est important parce que l'enseignant affecte le futur. Et il y a énormément de défis dans une salle de classe. Il y a même un livre qui a été écrit, qui est édité par Chenelière Éducation, qui s'appelle « 55 défis quotidiens de l'enseignant ». Donc, on parle là-dedans, je vais vous en nommer quelques-uns, comment motiver avec créativité et humour, éduquer avec enthousiasme et passion, soutenir les élèves en difficulté, gérer efficacement son temps, se montrer un leader compétent autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la classe. Il y a énormément de défis. Il y a des défis justement de gestion du temps, gestion de la classe, gestion des savoirs, un défi pour s'assurer que si les élèves justement n'ont pas saisi la matière ou lorsqu'on passe des examens, les résultats sont faibles. Comment est-ce qu'on fait pour les amener plus loin? Et c'est pour ça que moi, je crois que ce n'est pas d'augmenter les salaires des enseignants, c'est d'avoir plus de ressources. Je le dis souvent, vous allez dire, tu te répètes, Éric, mais couper dans les structures, investir dans les services aux élèves directs. Enlever les élèves en difficulté, trouver des moyens pour les rassembler selon leurs difficultés. Pour que ce soit des classes homogènes, pour qu'il y ait des spécialistes pour différentes difficultés. Et maintenant, avec les technologies, puis trouver des moyens pour que les bons élèves soient réunis ensemble, pour qu'ils soient poussés le plus loin possible. Et avoir donné un environnement aux enseignants pour toujours être mieux qualifiés pour le métier. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Plutôt que d'augmenter les salaires, libérer du temps d'enseignement. Donc, plutôt que, par exemple, les enseignants doivent enseigner 23 heures, mais vous allez dire, hey, une semaine de 23 heures, j'en travaille 40, 45, 50. Mais écoutez, ils ne font pas juste ça. Il faut qu'ils préparent les classes, ils doivent participer à des activités de l'école, à des rencontres de groupe, ils doivent corriger, ils doivent, à ce moment-là, rencontrer des parents, la direction, etc. Ça, c'est au primaire, 23 heures. Au secondaire, c'est 20,5 heures. Mais moi, je dis, on devrait baisser ça. Peut-être au primaire, moi, je dirais baisser ça à 18-19 heures, au secondaire à 15 heures. Pourquoi? Pas pour qu'il y ait plus de congés ou plus de temps, pour que le temps qu'il n'enseigne pas, il puisse s'asseoir puis être formé, à avoir des gens qui regroupent les enseignants puis qui répondent à leurs questions en disant « Je vis telle difficulté. Qu'est-ce que la recherche dit là-dessus? Comment je peux être accompagné? Quels sont les moyens? » Et c'est là quand les enseignants vont se sentir appuyés puis vont avoir des ressources, des idées concrètes qu'on va changer la dynamique chez les enseignants, puis ils ne seront plus dehors en train de faire la grève. Alors, vous voyez que le monde de l'enseignement vit une crise à l'heure actuelle et j'espère qu'on va trouver des solutions concrètes. On ne va pas juste donner plus d'argent en disant « Bon, ben payez-vous un peu plus de luxe. » Non, non, que cet argent-là va être bien investi parce que c'est le nôtre et c'est l'avenir de nos enfants qui en dépend. Alors, c'est tout le temps qu'on dispose aujourd'hui et que le temps passe vite, spécialement en bonne compagnie avec vous. Alors, je vous invite à être des nôtres du lundi au vendredi à 8h05 et à 20h05 pour parcourir votre tour d'horizon. Si vous voulez poursuivre la discussion, je vous invite à m'écrire à l'adresse suivante, leblogueuracommercialericlantier.net. C'est leblogueuracommercialericlantier.net. N'oubliez pas que cette émission est également disponible sur le www.ericlantier.net, le www.ericlantier.net. Alors, je vous invite à être des nôtres demain au 92,7 FM.